Vous écoutez Radio France Internationale, la radio du monde. Il est 1h ici à Paris, minuit en temps universel. Si vous nous écoutez à Dublin, à Dakar, à Abidjan ou encore à Lomé, on vous souhaite la bienvenue en 2025.
Galibonin.
En Afrique de l'Ouest, des vœux de fin d'année et le départ des troupes françaises souhaités. Le président sénégalais donne 1 an aux armées étrangères pour quitter le pays et la Côte d'Ivoire annonce la reprise d'une base militaire d'ici la fin janvier. En France, le chef de l'État interpelle ses voisins européens dans son adresse à la nation. Emmanuel Macron demande la fin de la naïveté européenne en matière de commerce et d'agriculture. Des propos que vous pourrez entendre dans ce journal. Et l'espace Schengen a 2 petits nouveaux. Depuis minuit heure locale, la Roumanie et la Bulgarie ont enfin intégré la zone après plus d'une décennie d'attente. Pas de trêve pour le nouvel an entre la Russie et l'Ukraine. Dans les deux pays, les frappes se sont poursuivies toute la journée de mardi. Et l'état d'urgence est déclaré à Trinité et Tobago. Le gouvernement de l'archipel des Caraïbes espère parvenir à contrôler l'explosion de violence provoquée par les gangs. Dans leurs vœux de fin d'année, les présidents d'Afrique francophone ont insisté sur l'importance de récupérer les bases militaires aux mains des Français. C'est le cas en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a adressé son traditionnel message de fin d'année. Il a annoncé que l'armée ivoirienne allait récupérer le camp du 43e Bima, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouette, une commune d'Abidjan. Un départ des forces françaises dès le mois de janvier 2025 et à 10 mois de la présidentielle. Le chef d'État n'a pas dévoilé ses intentions au sujet du scrutin. Benoît Almeras.
60 secondes, c'est le temps que le chef d'État ivoirien a consacré à la présidentielle dans son allocution. Le temps pour Alassane Ouattara de rassurer ses compatriotes, mais aussi les partenaires étrangers du pays. Les élections seront apaisées, transparentes et démocratiques. Une priorité pour le président ivoirien, consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Fin de citation. Aucune déclaration d'intention donc en vue du scrutin d'octobre 2025. Alassane Ouattara s'est concentré sur le bilan de l'année écoulée et sur les perspectives d'une croissance économique à 7% en 2025. Une annonce, toutefois, la rétrocession de la base française du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët. Elle sera effective dès ce mois de janvier. L'emprise sera rebaptisée Ouattara Thomas d'Aquin du nom du premier chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, un camp qui sera désormais celui des forces armées ivoiriennes. Benoît Almeras, Abidjan. RFI.
Et au Sénégal, le départ était annoncé. On sait maintenant pour quand il est. Dans son adresse de fin d'année, le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé que les forces étrangères basées dans le pays devront quitter en 2025, un objectif affiché depuis l'arrivée au pouvoir en mars des nouvelles autorités. Elles n'en ont pas fait un secret. Fin novembre, le président Bassirou Diomaye Faye avait expliqué que cette présence était incompatible avec la souveraineté nationale. Il y a quelques jours, c'était le premier ministre Ousmane Sonko qui avait réitéré cette intention dans sa déclaration de politique générale devant les députés. En France, Emmanuel Macron aussi a prononcé ses vœux de fin d'année, une allocution plus courte que les précédentes, un peu plus de 10 minutes. Pour la première fois, le chef de l'État a reconnu que la dissolution de l'Assemblée nationale avait provoqué de l'instabilité dans le pays, un aveu à demi-mot qu'il n'avait jamais entièrement fait jusqu'à maintenant. Emmanuel Macron a également interpellé ses voisins européens, appelant à la fin de la naïveté en matière de commerce et d'agriculture, écho indirect à l'accord de libre-marché que Bruxelles vient de nouer avec le Mercosur, la zone commerciale des pays d'Amérique du Sud.
Les Européens doivent en finir avec la naïveté, dire non aux lois du commerce édictées par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter, dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie et sans préparer notre avenir. À l'inverse, il nous faut le réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite, prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage.
Emmanuel Macron, qui a également laissé entrevoir de possibles référendums. Il a assuré qu'il demanderait aux Français de trancher des sujets déterminants en 2025. 1h04 ici à Paris et depuis un peu plus de 2h, la Roumanie et la Bulgarie ont officiellement rejoint l'espace Schengen. Après plus de 13 ans d'attente, les deux pays d'Europe de l'Est pourront circuler librement dans cette zone européenne. La transition avait déjà débuté en mars avec la levée des contrôles dans les aéroports et les ports maritimes. À partir du 1er janvier 2025, c'est maintenant les postes frontières terrestres qui s'ouvrent sur les 27 autres pays de l'espace Schengen. Et pour la première fois en plus d'un an, le cours du gaz européen franchit la barre symbolique des 50 euros. Le prix du gaz a bondi depuis que Kiev a confirmé la fermeture de tous les gazoducs russes sur son territoire. Cette interdiction a commencé le 1er janvier 2025, une interdiction qui met fin à l'approvisionnement de plusieurs pays d'Europe de l'Est. Les principaux concernés sont la Hongrie et la Slovaquie, deux pays proches de Moscou. La Moldavie, enclavée entre la Roumanie et l'Ukraine, est également touchée. Depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022, le gaz continue d'être importé en Europe. Les livraisons russes ont même augmenté en 2024. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a prononcé ses vœux de fin d'année. Il a annoncé que 2025 serait l'année de l'Ukraine. Il a réaffirmé sa volonté de mettre fin à la guerre contre la Russie cette année et a promis de continuer le combat sur le champ de bataille et à la table des négociations. Mais sur le front, pas de répit malgré la fin d'année. Le 31 décembre a été marqué par de nouvelles frappes, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Les précisions de Yelena Tomic.
Objectif atteint pour le ministère de la Défense russe après une série de frappes menées la nuit dernière dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. La Russie aurait lancé des missiles balistiques de croisière et hypersoniques, ainsi que 40 drones d'attaque Shahed de conception iranienne. Ce matin, l'armée russe ajoute avoir pris pour cible l'infrastructure d'un aérodrome militaire et un complexe militaro-industriel. De leur côté, les Ukrainiens affirment avoir lancé des drones sur un dépôt pétrolier situé dans la région russe de Smolensk, à 500 km à vol d'oiseau de Kiev, la capitale. Les renseignements ukrainiens annoncent aussi avoir abattu un hélicoptère russe en mer Noire à l'aide d'un drone naval, une première. En cette fin d'année, l'Institut américain pour l'étude de la guerre note que les forces russes ont avancé de près de 4000 km² en territoire ukrainien. Pas de percée majeure, mais un grignotage constant des positions ukrainiennes, principalement dans le Donbass. Du côté ukrainien, l'année 2024 aura été marquée par l'offensive menée dans la région russe de Koursk. Malgré la contre-offensive menée par Moscou, l'Ukraine occupait encore en cette fin d'année un peu moins de 500 km² de territoire russe.
Yelena Tomic. En Finlande, l'enquête pour sabotage d'un câble sous-marin se poursuit. Helsinki a annoncé que 7 membres de l'équipage du pétrolier Eagle S étaient soupçonnés et interdits de déplacement. La semaine dernière, une liaison entre la Finlande et l'Estonie a été interrompue en mer Baltique, dans le nord de l'Europe. Selon les autorités finlandaise, le navire intercepté, floqué sous pavillon des îles Cook, appartiendrait en réalité à la flotte fantôme de la Russie. À Trinité et Tobago, dans les Caraïbes, c'est un réveillon sous haute surveillance. Les autorités de l'archipel ont déclaré l'état d'urgence pour faire face à l'augmentation des assassinats et face à l'emprise des gangs, une augmentation de la violence qui met en danger la sécurité publique. Suzanne Marion.
Une décision motivée par des chiffres. Il y a eu cette année 623 homicides, soit près de 70 de plus que l'an dernier. Et voici comment le ministre de la Sécurité intérieure, Fitzgerald Hinz, décrit la situation.
Pour moi, il n'y a aucun doute que nous sommes confrontés à une épidémie. Et c'est la raison pour laquelle nous traitons cette question comme un problème de santé publique.
Des homicides liés notamment au règlement de compte entre membres des gangs sur fond de trafic de drogue. Pour y faire face, l'état d'urgence donne davantage de moyens à la police. Elle peut par exemple mener des perquisitions sans mandat judiciaire et prolonger les détentions jusqu'à 48 heures. Pour autant, la population peut continuer à se déplacer librement afin de ne pas entraver l'activité économique, comme le justifie le procureur général Stuart Young.
À ce stade, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de couvre-feu. Cette décision s'explique par le fait que l'état d'urgence national vise les personnes qui se livrent à des activités criminelles avec des intentions criminelles.
Ce n'est pas la première fois que les autorités trinidadiennes musclent la répression face aux gangs. En 2011, déjà, un état d'urgence avait été instauré sans que la violence ne soit réduite sur le long terme.
Les précisions de Suzanne Marion, 1h09 à Bruxelles, où les cigarettes électroniques jetables sont interdites depuis maintenant une heure. La mesure belge vise à protéger les jeunes, souvent mineurs. Le marketing des puffs, comme on les appelle, cible particulièrement les plus jeunes avec des saveurs fruitées et sucrées. Cette interdiction s'inscrit dans l'objectif du Royaume de créer une génération sans tabac d'ici 2040. Thank you.